Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à un nouvel épisode des Manches Sûres. Je suis ravi d'accueillir un directeur d'école. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
J'aimerais que tu te présentes, que nous dises comment tu as l'école que tu diriges et tu te présentes un peu en général.
Oui, d'accord. Alors je suis Guillaume Pires-Parada. Je suis arrivé à Montpellier il y a une quinzaine d'années. Pour rejoindre l'école d'Anne-Marie Porras, que tu as d'ailleurs reçue récemment. Lors en fait d'un stage, j'ai dû retrouver une tutrice qui m'a accompagnée du coup dans les premiers chemins de la pédagogie, donc Céline Constant, qui est à l'origine de l'école de danse aujourd'hui que je dirige, qui s'appelle En Mouvance, et qui a une trezaine d'années.
Trezaine d'années, c'est une école qui est... pas loin de lycée Clemenceau.
Exactement, c'est ça, tout à fait.
D'accord. Et alors, comment trouver le bonheur par la danse?
Vaste question. Le bonheur par la danse. Je dirais que c'est assez simple si on évite quelques pièges. Ce que j'aime beaucoup dire à mes élèves, en tout cas, c'est de prendre la danse au sérieux, ou du moins de prendre mon cours au sérieux, sans se prendre au sérieux soi-même. Donc c'est très relié aussi à retrouver son âme d'enfant et à surtout rester très connecté au plaisir qu'on peut avoir, au plaisir et au partage dans un cours collectif.
Dans un cours collectif. Ok, donc tu les relis carrément à cette, je sais pas si on peut dire dualité, non?
Parce que c'est complètement. C'est pour moi la meilleure condition de travail qu'on puisse avoir. C'est très difficile, hein, notamment sur un public adulte qui vont avoir tous ces biais de comparaison, les uns aux autres, ce genre de choses qui sont importants à mon avis à dynamiter assez rapidement pour qu'ils se recentrent sur eux, leurs sensations, leurs plaisirs, mais encore une fois, sans être trop sérieux.
Trop sérieux, oui. Parce que c'est connu, hein, dans les écoles des danses, il y avait beaucoup de disciplines à l'époque, non?
Et, complètement.
Et ça formatait aussi la tête. Ça mettait le corps dans une situation un peu parfois de souffrance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a étendu un peu plus la notion de pédagogie.
Complètement, oui. C'est surtout vrai en pratique amateur. Hein. Moi, souvent, je leur explique, en tout cas, et je leur répète souvent, qu'ils sont dans le cadre d'une pratique amateur, pas professionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant que je classe les pratiques et que l'une est plus meilleure ou plus exceptionnelle que l'autre. Mais voilà, souvent, je leur dis, n'oubliez jamais pourquoi vous venez prendre des cours. Oui. Ou en tout cas, posez-vous régulièrement la question de pourquoi j'entre dans un studio de danse. Est-ce que c'est pour être le meilleur ou est-ce que c'est pour mon propre plaisir? Voilà. Qu'est-ce que je viens chercher dans un cours?
Quel est le cadre pour la pratique?
Complètement.
Hein. D'accord. Et quelle pratique tu as principalement? Tu as une formation de quel type de danse? Quel
Alors,
style tu travailles?
Je fais partie des personnes un peu hybrides qui se sont perdues puis retrouvées. Moi, je suis issu du jazz d'abord.
Ok.
Donc ma mère m'a mis au jazz parce que je ne voulais faire aucun sport.
Trop bien.
Donc elle m'a dit, bon, à un moment donné, il faudrait quand même que tu fasses quelque chose. Et je lui dis, ok, je vais faire comme Émilie, qui est ma sœur, ma grande sœur. Elle m'a inscrit au cours de jazz et depuis, je n'ai plus jamais quitté les studios de danse.
Ouais.
Donc j'ai fait 3-4 années et vite après, je me suis dirigé vers les danses urbaines, notamment la danse hip-hop.
D'accord.
Près de Bordeaux. Et j'ai vite décidé de me professionnaliser. C'est dans le cadre justement de ces recherches de professionnalisation que je suis tombé sur la danse contemporaine.
D'accord.
Je me blessais énormément en hip-hop puisque j'étais breaker.
Ouais.
Donc des luxations, des entorses, ce genre de choses.
C'est très
courant. J'ai vite compris effectivement que même en étant jeune, il allait falloir que je trouve peut-être une pratique qui soit un peu moins violente pour mon corps si je voulais durer. Mmh. Ouais.
C'est vrai que j'ai eu une expérience trop belle. On était dans un festival, dans un petit village là-bas perdu en Colombie. Et donc nous, on était l'équipe de danse contemporaine, on était plus relaxés à dormir et tout ça. Et dans l'étage, à l'étage, il y avait que tous les garçons des banlieues qui pratiquaient du hip-hop. Mais pour eux, c'était la nourriture. Ils faisaient ça tout le temps. Et ils s'étaient crevés, mais ils continuaient. C'est une utilisation du corps qui est assez excessive, qui est assez dynamique.
Qui est excessive, mais qui apporte en même temps énormément de choses, notamment le rapport à l'effort. Okay. On commence déjà à divaguer, mais c'est quelque chose qui se perd un peu aujourd'hui. Donc on a aussi cette mission, nous, en tant qu'enseignants, de refaire... trouver le goût de l'effort, notamment aux jeunes générations qui arrivent. Et effectivement, dans le hip-hop, il y a cette physicalité qui est un peu évidente, dans laquelle on est de toute façon obligé de plonger si on veut progresser, prendre du plaisir. Ce qui est parfois un peu moins vrai dans les cours de danse contemporaine, en fonction d'avec qui on travaille.
Avec qui on travaille, c'est tellement divers, oui. Dans les cadres pédagogiques, quels sont les pièges à éviter? Quelque chose que tu as appris et que tu conseilles
Alors, en volontiers. Tant qu'élève ou en tant que professeur?
Faisons d'abord les profs.
Okay. Je pense qu'il faut être très vigilant au poids à l'utilisation et au poids des mots en tant qu'enseignant. Et oui, les mots sont des armes, donc il faut être extrêmement précautionneux avec les mots qu'on adresse à nos élèves.
Oui.
Quand je dis nos élèves, je fais bien attention à ça, hein, c'est-à-dire que je suis bien au fait que les élèves ne m'appartiennent pas, mais en tout cas dans le cadre d'un cours, le moment d'un cours, quelque part ils sont chez moi, ce sont un peu comme mes invités ou mes compagnons de route le temps d'une heure et quart, donc il faut prendre soin d'eux, ce qui n'exclut pas de les bousculer de temps en temps, mais il faut savoir effectivement...
Juste mesure.
Oui, tout à fait. Donc je dirais le poids des mots et se méfier aussi d'un mimétisme qui serait peut-être un peu trop excessif si on est beaucoup dans la démonstration.
Tu veux dire dans les formes que tu enseignes ou...
Complètement, c'est-à-dire que peut-être ne pas remontrer 20 fois pour ne pas tomber dans ce piège de mimétisme qui va un peu les enfermer dans une forme extrêmement précise alors que mon travail est quand même plus basé sur la sensation et la physicalité.
Ok, je comprends. Donc, ce n'est pas seulement obéir à une instruction physique, mais il y a une puissance aussi, une dynamique.
C'est très drôle que tu utilises le mot obéir, parce que je leur demande très souvent justement de ne pas obéir.
D'accord.
Et d'être disruptif dans leur pratique et de leur dire non, il y a beaucoup d'endroits dans la rue, au travail, à l'école, des endroits divers où justement on obéit beaucoup.
Oui.
Et il y a cette liberté dans la danse, justement, de prendre la décision de temps en temps de désobéir. Ça mène à des super accidents de création avec des idées qui émergent, qu'on n'aurait pas vu arriver.
Justement, de l'erreur ou de ce qui ne devrait pas être fait, qui produit aussi. C'est qui parlait de produire ça, je ne me souviens plus. C'est un film que j'ai regardé hier soir. Est-ce que la transmission a une place en dehors de l'école?
Alors,
tu en penses quoi?
Tu parles pour l'école ou pour moi?
Ah non, attends, on a digressé encore, mais on va finir.
Je suis le spécialiste de la...
Oui, moi aussi, il faut faire attention. Mais on avait dit prof, et maintenant les élèves, mais on a fini? Ou tu penses qu'il y a d'autres choses
Je pense que j'y ai un peu répondu, mais on peut apporter quelques précisions. Sur les élèves, effectivement, le premier biais, c'est de se comparer constamment aux autres. Et en même temps, on a été très bien conditionnés à ça, malheureusement. Donc, ne pas se comparer aux autres, rester centré sur sa pratique. Développer beaucoup de compassion aussi et de respect pour les gens qui partagent l'espace de danse avec toi pendant que tu prends le cours. C'est toujours très délicat en fait de trouver la limite entre ne pas se comparer et pourtant être capable de poser le regard sur l'autre pour s'en inspirer ou s'en amuser ou détourner une idée. Voilà, il y a un vrai travail à faire là-dessus.
Ouais,
et ne pas chercher effectivement la grande perfection absolue tout le temps, être très centré sur la technique. Je l'explique souvent aussi dans mes classes, de leur dire il n'y a rien de vrai ou de faux, et il n'y a rien de bon ou de pas bon. En tout cas, là, pour moi, la danse ne se place, ne se place pas là. Et là, justement, ce rôle un peu disruptif de pouvoir dire bah, on n'est pas obligé de tout qualifier tout le temps.
Ok. J'aimerais que tu sois mon prof. Tu as décidé des idées merveilleuses que je n'ai pas trouvées dans mes anciens maîtres. Et c'est plaisant de t'entendre parler, de savoir que tu as une pratique raisonnée, qui ce n'est pas quelque chose de... Voilà. On voit qu'il y a bien quelque chose qui s'est passé avec toi. On va faire une toute petite pause et on revient avec vous, avec les mots en chaussures. Avec ces notes en douceur, on revient avec notre cher invité Guillaume dans notre émission Manche Sûre. Parlons maintenant de quelque chose qui me tient à cœur et ton geste préféré. Est-ce que tu as un pas de danse qui pourrait être décrit à la radio ?
À la radio. Alors, je vais faire la démonstration justement de ce qu'est ne pas obéir. Donc, je vais répondre à la question sans y répondre.
Très bien. J'aime beaucoup.
J'ai pas spécialement de pas ou de gestes chorégraphiques précis. Par contre, je peux effectivement te dire ce que j'aime et ce qui m'anime quand je danse. C'est la prise de risque dans le mouvement.
Ok. Dans le vertige, le déséquilibre.
Le vertige, le déséquilibre, effectivement, le fait de se désaxer, de se renverser et d'aller dans des chemins parfois qui sont anti-logiques au possible.
Ok.
J'aime l'idée en fait qu'on puisse se renouveler, même si on prend un cours par exemple toutes les semaines et que c'est à peu près le même. L'idée de toujours revisiter, de dire mais... Est-ce qu'on ne peut pas faire ça encore autrement Ça, c'est très lié à mon expérience que j'avais alimentaire avant. J'ai fait de la caisse pendant 10 ans, le temps de construire mon parcours chorégraphique. Et effectivement, mon grand jeu, c'était de dire « Ok, tu fais la même chose pendant 10 heures. Est-ce que tu ne peux pas le chorégraphier et rendre la chose différente à chaque fois ?» Et le temps est passé tellement plus vite. Voilà. Je suis désolé, j'ai répondu un peu à côté de la question.
Non, mais c'est le geste de la caissière, voilà, parce que moi aussi, j'ai fait de la caisse, j'ai fait d'autres boulots et j'avais cette obsession de... Je me dirigeais comme un pantin et pour réorganiser, pour copuler mes gestes. On réfléchit tout le temps en termes de danse, donc on comprend ce qu'on peut dire, mais peut-être que les auditeurs ont besoin d'une explication. C'est l'organisation de tes gestes dans le boulot. Tu es censé, comme tu le disais, de faire la même chose. Mais il y a toujours une modification, un angle, une légère modification qui va forcément apporter une nouvelle touche. Complètement. À quelque chose qui est répété, parce qu'on est censé de répéter tous les soirs quelque chose.
C'est ça. Sur l'aspect très administratif, c'est vos chères formations gestes et postures dans les grandes entreprises.
Oui. Et de ça, il en manque beaucoup. Et surtout oui. dans les boulots des premières nécessités, c'est très compliqué.
Complètement.
Parce que, ouais, on n'a pas forcément le temps de faire les bons gestes, et de s'accroupir, par exemple, pour se lever du poids, etc. Ouais. Et ça, c'est des sujets sociologiques qui m'intéressent et qui peut intéresser beaucoup nos auditeurs. Est-ce que tu as des luttes, des dispositions
personnel ou en tant que directeur d'école? Parce que je ne vais pas te faire les mêmes réponses.
D'accord, bon, c'est celle que tu préfères répondre.
Alors, je vais te répondre par le biais de l'école, puisque c'est ma fonction qui m'a emmené jusqu'ici. Je ne peux pas dire que l'école lutte, en tout cas sur ce choix de mots.
C'est un peu fort, oui.
Mais je dirais en tout cas qu'elle porte des valeurs qui sont très ancrées et qui se sont un petit peu développées au fil des années. Quand on a ouvert l'école, la pédagogie ou en tout cas le rapport qu'on avait au public n'était pas basé sur ces valeurs-là. C'est plus des valeurs qu'on a rencontrées en faisant un bilan un peu des 10 ans. Effectivement, pour nous, ce qui est excessivement important, c'est que les cours de danse s'adressent à tous les âges déjà. On a des personnes qui poussent la porte de notre école de danse qui ont 55 ans,
Oui. Plus
même.
Ça, c'est
on a 61, je crois. J'espère qu'on battra encore les records, 61, et qui arrive et qui nous dit « moi, je rêve de faire la danse classique, mais
j'ai jamais fait.
Moi, je pense que c'est plus pour moi. » Eh bien, si, justement. Nous, notre rôle aussi, il est là, c'est de dire ben, « peu importe ton âge, peu importe ton corps, ton genre, d'où que tu viennes, qui que tu sois, tu as effectivement le droit d'apprendre à danser. » C'est vraiment le vecteur sur lequel on travaille, donc c'est un vecteur d'inclusion et de société qui est extrêmement puissant.
Oui.
On travaille évidemment sur d'autres valeurs, hein, l'interdisciplinarité, pardon. On encourage beaucoup nos élèves à prendre plusieurs disciplines, puisqu'elles elles se complètent les unes les autres, et d'avoir aussi cette curiosité avec les autres disciplines qui peuvent être l'architecture ou encore d'autres pour faire des ponts et nourrir la pratique. Et surtout aussi de jamais considérer l'amateur comme un sous-professionnel.
Ok.
Alors ça, c'est un vaste débat.
Mais tu vois qu'il y a une disposition qui est hyper, hyper intéressante. Moi, je l'appelle la micropolitique parce que c'est des luttes. Je vois que tu ne le fais de façon frontale, mais c'est quand même une disposition particulière à des choses qui se passent dans la société et que nous, on essaye de répondre.
Bon, ouais.
Vous essayez de répondre avec tous ces cadres.
Complètement.
Je voulais dire quelque chose d'autre.
On était sur l'amateur qui n'est pas un sous-professionnel.
Qui n'est pas un sous-professionnel, qui, voilà. Et surtout, aujourd'hui, dans les festivals, pluriels, on a beaucoup de personnes qui viennent danser pour un spectacle, qui n'ont jamais dansé de leur vie, et que c'est aujourd'hui très démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout faire dans les plateaux.
Complètement. Montpellier est un poil en retard sur ce sujet-là. En tout cas, il y a peu de place aux pratiques amateurs dans les grands festivals qui inondent de la ville ou même la région.
Ouais.
Mais je pense que c'est quelque chose qui viendra tôt ou tard. Hein. L'amateur, il ne faut pas oublier que l'amateur, c'est l'amoureux déjà, passionné.
C'est ça. Hein.
Et que nos amateurs, en fait, dans les écoles de danse, sont les publics du festival, sont les professionnels de demain également. Donc il faut prendre soin de ces gens qui sont amoureux de la danse.
C'est beau, c'est beau. Je vois aussi, on parlait en dehors du microphone, d'une grande écrivaine que nous suivons et que c'est une coïncidence. Et tu connais quoi d'elle?
Alors, je connais ses ouvrages. Bon, je pense qu'ils sont les plus célèbres, hein, Poétique de la danse contemporaine. Donc, on est en train de parler de Laurence Loupe, pour ceux qui nous écoutent.
Une grande plume qui a énormément aidé à encadrer les champs chorégraphiques en donnant vraiment des bases sur les fluxus, sur
complètement.
Les systèmes de notation, etc.
C'est le premier livre qu'on m'a offert d'un chorégraphe qui s'appelle Christian Canciani.
Canciani, ne connais pas.
Qui est maintenant à Dresden, en Allemagne.
L'Allemagne.
Et effectivement, c'est un bouquin qui est assez fascinant parce qu'on peut le lire plusieurs fois et le revisiter à plusieurs moments de sa vie de danseur ou de professeur ou d'élève. Et on y trouvera jamais tout à fait la même chose. Donc c'est assez intéressant ce va-et-vient à l'œuvre qu'on peut faire tellement elle est complexe et poétique, en tout cas pour celle de Laurence Loupe.
C'est ça, c'est une écriture brillante et qui résonne de façon différente selon ce que tu as mangé.
Oui, aussi.
Et aussi, quand tu le disais, on dehors du microphone, ça dépend aussi dans quelle étape de la vie on parlait un peu de cet amour de la danse, quand la danse ne t'aime pas et que on est tous confrontés un peu à ça.
Oui, et puis il y a quelque chose aussi d'assez fascinant avec la danse, c'est que nous, on voit beaucoup de nos élèves amateurs quitter l'école après 1 an, 4 ans, parfois 7 ans de pratique. Et souvent, je leur dis, mais tu reviendras. Et effectivement, même quand on quitte la danse, tôt ou tard, on y revient. Toujours.
C'est une hantise. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à cette expérimentation corporelle, on ne peut plus en passer. Moi, j'ai une pratique assez privée, assez intime, et je danse beaucoup chez moi. C'est quelque chose qui me tient bien à cœur. Je pense qu'on a tous des astuces et des thérapies comme ça. Et on a beaucoup travaillé en Allemagne sur plein de... Il y avait beaucoup de textes, on devait lire beaucoup de choses. Et je suis plutôt inspiré par les textes pour le côté théorique de la danse. C'est quelque chose qui me passionne, qui nous permet aussi de faire cette émission. Et on travaillait beaucoup des petits gestes, des gestes minimales ou de gestes de rien du tout.
Du quotidien ou pas forcément?
On était assis, on travaillait avec le cœur, avec les bras et les mains. Et donc le chorégraphe avec lequel je travaillais, Luis Garay, un Colombien qui habite en Argentine et aujourd'hui en Europe, s'est spécialisé sur ce petit geste. Donc on était assis, on jouait comme si on était en train comme jouer avec un chat, pour surprendre un chat. Il faut y avoir une présence tout le temps. Donc ça peut sembler tout petit, les gestes, parce que c'était des petits mouvements, des sautes, et avec les bras, avec les phalanges, etc. Mais c'était, il fallait tenir constamment la présence.
C'est le rapport à l'image, effectivement, qui est hyper important pour venir nourrir l'interprétation de quelqu'un. Je ne suis pas étonné effectivement qu'il parle du chat pour poser la délicatesse de la main, où je pose mon regard, la vitesse qu'on met dans le geste, la précision.
Et aussi le fait surprise. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est ça. C'est que on fait un schéma cérébral, on dit bon, je vais faire tel mouvement, je suis conscient que je vais élaborer telle trajectoire. Et tout d'un coup, on arrête de penser, c'est plus le cerveau, c'est carrément le bras, la main qui va réfléchir, qui va dire pas par ici, par là. Et c'est un chemin intéressant de dissocier la pensée et le corps qui
totalement,
danse.
Totalement, oui.
Ça, c'est passionnant. Nous avons quelques minutes encore, mais nous pouvons parler de quelque chose d'extrêmement important pour les chorégraphes. Est-ce que tu te considères comme chorégraphe déjà?
Alors là, c'est toujours le même problème aux nombreux syndromes. Oui, chorégraphe, je le suis puisque j'écris encore la chorégraphie et je l'ai été professionnellement puisque je rappelle à nos auditeurs que professionnel ne veut juste dire être rémunéré pour son métier.
Voilà.
Donc oui, chorégraphe professionnel, je l'ai été, je ne le suis plus maintenant parce que mes fonctions de directeur ne me permettent plus de dégager suffisamment de temps. Mais oui, effectivement, j'ai travaillé et j'ai écrit plusieurs pièces.
Pour moi, c'est très important l'autoconsidération qu'on a de ce que nous sommes, parce que ce n'est pas forcément la reconnaissance sociale ou du salaire qui va dire qui tu es.
C'est très auto-revendiqué, de toute façon, ce genre
heureusement
de métier, comme écrivain, comme... voilà.
Oui, je pense que ça vient de Judith Butler, j'oublie, mais c'est quand tu considères ton genre.
Complètement.
C'est toi qui décides c'est pas les restes, c'est pas les autres.
Bon, donc ça, du coup, je te pose un oui affirmé.
Un oui.
Est-ce que tu as été chorégraphe ?
C'est très bien.
Oui, je l'ai été.
Alors, et rapidement, donc, quelle est ta relation avec l'écriture, justement ? Est-ce que tu travailles que avec des systèmes de notation ?
Je travaille beaucoup avec le hasard, déjà.
Ok. Tu travailles avec des crayons ?
Je peux travailler avec des espèces de schémas un peu mathématiques.
Ok.
Donc, avec des patterns.
Okay,
des motifs en français, je crois, où je vais m'amuser à les déstructurer, les réorganiser, les répéter.
Okay. Dans la danse baroque, il y a beaucoup de diagrammes.
Oui,
Il y a beaucoup de dessins comme ça qui sont géométriques.
Anne-Thérèse de Kirsmaker travaille un petit peu comme ça. C'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'aime m'amuser avec le mouvement. Après, ça rentre souvent en dualité avec mon goût très extrême pour la physicalité dans la danse.
Okay. Et,
voilà, j'ai un amour absolument dingue pour la physicalité. Toutes les danses que tu peux voir, par exemple, chez Wim Wenders Kibus ou ce genre de courant chorégraphique. Et c'est très difficile à déconstruire avec le hasard.
Déconstruire avec les hasards, oui,
ouais,
c'est vrai
que les chemins sont très complexes.
Kirsmaeker a travaillé sur la musique de Steve Reich, non ? Mm-hmm. J'aime beaucoup quand elle, c'est une grande chorégraphe de Pays-Bas.
Flamande.
Bon, là, on a fait.
Ouais.
Mais,
on a fait les mauvais élèves.
Elle a une vidéo notamment qui m'y plaît beaucoup et elle est sur un cercle. Un énorme cercle, il y a du sable.
Oui.
Et donc, elle commence à se déplacer de façon très régulière. Et ça produit une figure vue d'en haut.
Complètement.
Ça peut représenter plein de ces dessins qu'on voit dans les bouquins de danse.
Ouais.
Par exemple, dans la cour du roi, on dessinait les pas, on dessinait quelle figure les personnes devaient réaliser.
C'est toujours difficile parce qu'en fait, là, pour le coup, j'ai une posture que je ne défends pas. On est sur quelque chose de... Alors, pas savant, mais en tout cas, quand le public regarde ce type d'œuvre-là, on ne peut pas dire que l'accès soit si évident parce que du coup, c'est pas tellement l'esthétisme de la pièce qui prime, mais c'est plus le process, ce qui a été derrière. Ouais. Et ça, c'est absolument fascinant. Il y a encore un vrai travail à faire pour emmener le public dans les process, pour vraiment comprendre le cœur de l'œuvre avant d'en juger son caractère esthétique et de savoir dire pourquoi j'ai aimé ça, pas aimé, compris, pas compris. D'ailleurs, c'est pas grave de pas avoir compris. Des fois, c'est super intéressant de se perdre, comme dans une ville qu'on connaît pas.
Très intéressant. On pourrait rester ici pendant quelques heures de plus.
Et oui, je le crains.
Je remercie Guillaume et Au Mouvance.
Oui.
On fait la petite pub pour ton école. venez à Montpellier à étudier la danse avec ces merveilleux cerveaux. Et j'imagine que tu as une belle équipe. Je te remercie.
Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation.
Et tu es bienvenu quand tu veux.
Eh bien, super.
Veux.
À très
on
bientôt.
On pourra parler d'un autre sujet un peu plus précis, si c'est possible.
Avec grand plaisir.
Et à vous, nos chers auditeurs, passez une belle journée ou une soirée. Et je serai avec vous la semaine prochaine.
Alors tu veux faire danseur ?
And push. And turn and people
down. Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses ?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit ! On se tourne vers le miroir, allez !